La croissance verte n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, non, non.
We will have to change, we will have to change. Hope is not blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
Bonjour et bienvenue dans les décroissants tout chauds. Aujourd'hui, je vous présente le livre de Laurent Testot et Nathanaël Wallenhorst. Ce livre s'intitule « Vortex, faire face à l'Anthropocène ». Tout juste paru aux éditions Payot et disponible à la médiathèque Vaillant dès que je l'aurai rendu. Laurent Testot est un essayiste absolument passionnant, spécialiste d'histoire globale et journaliste scientifique. Nathanaël Wallenhorst est docteur en sciences de l'environnement, sciences politiques et sciences de l'éducation. Il est enseignant, chercheur à l'Université catholique de l'Ouest. Vortex s'articule autour de deux grandes parties. La première partie s'intitule « Passé ». Elle expose les multiples façons dont l'humanité a altéré la Terre. Et la seconde partie, grande partie, s'intitule « Futur » avec un S. Elle expose le panel des solutions systémiques encore envisageables. Le livre est par ailleurs truffé de petits poulets humoristiques posant à côté d'une soucoupe volante, reprenant d'une phrase chaque chapitre et interpellant le lecteur. Ces petits poulets devraient parler aux Bressans, enfin plus que les soucoupes volantes. Bref, vortex, au fait, ça veut dire quoi? D'après mon petit Larousse illustré de 1996, petit 1, tourbillon creux qui prend naissance sous certaines conditions dans un fluide en écoulement. Petit 2, ensemble de nuages enroulés en spirale, spécifique d'une dépression. Alors Testot et Wallenhorst proposent dans la dernière partie de leur livre 9 bonnes vraies solutions, c'est-à-dire un pacte global. Nous allons découvrir la 8e, tiens par exemple, qui s'intitule « Réguler le web et l'espace ». Alors je trouve la page... Réguler le web et l'espace. Bienvenue au Far West. Depuis une vingtaine d'années ont été créées 2 nouvelles zones de non-droit, de véritables Eldorado où le premier arrivé est roi. Il s'agit du web et de l'espace. Alors que le capitalisme nous avait habitués depuis 2 siècles au développement de carrières exploitant des minerais, l'extraction s'est élargie à un autre type de matériaux, les humains. Ainsi, la commercialisation des données personnelles récoltées lors de la navigation des internautes permet la fortune des géants de la tech. Et pour pouvoir aller toujours plus loin dans la préemption des existences humaines, c'est désormais l'espace qu'il s'agit de coloniser. Les 2 cow-boys les plus riches du monde, Elon Musk et Jeff Bezos, se sont lancés dans une course à l'échalote. Qui sera le premier à déployer des armées de satellites pour tracer chaque humain sur la Terre et lui donner la possibilité d'utiliser sa carte bancaire, même au beau milieu de l'océan Atlantique? Le premier arrivé gagne tout. Il disposera d'un réseau Internet surpuissant et deviendra ainsi propriétaire de tous les humains de la Terre. Voici l'Anthropocène. Un monde où il n'existe pas une parcelle d'information qui ne soit exploitée, archivée et consommée, que ce soit dans l'intimité d'une existence humaine ou dans les cieux. Tout doit disparaître, en somme, pour être fondu dans un immense ensemble. Ici, il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut mettre fin à la sauvagerie. Et cela doit passer par le renforcement de l'activité du législateur pour réguler ses préemptions. Mais c'est là que le bât blesse. La mésosphère, c'est-à-dire la partie de l'atmosphère où sont envoyés les satellites en orbite basse, et la thermosphère, où tournicotent les satellites en orbite haute, n'appartiennent à personne. La bataille se joue alors aussi sur le plan de la pensée. Il s'agit de concevoir le monde de telle sorte qu'il nous soit commun à tous et qu'il ne soit pas uniquement la propriété de quelques-uns. C'est ce qu'autorise, ces dernières années, la remobilisation et le développement du concept de « commun » pour désigner ces ressources qui ne peuvent devenir propres, c'est-à-dire appropriées par quelqu'un, mais qui sont fondamentalement partagées et qu'il nous revient de gérer collectivement, Ainsi en est-il du web comme de l'espace. Maintenant, parlons un petit peu de l'empreinte environnementale de la tech. La numérisation du monde est en marche. Il n'existe plus d'activité qui ne soit numérisée. Ainsi, votre déclaration d'impôt ou toute autre démarche administrative, votre ticket de caisse à Super U, vos examens de fin d'année, la lecture d'un quotidien, vos réunions avec votre boss, etc. C'est ce qu'on appelle la dématérialisation. Ses adeptes la vendent comme écologique. C'est un immense mensonge. Il n'y a rien de plus lourd que le « cloud », qui signifie « nuage » en anglais. Tant sur le plan des matériaux, aluminium, plastique, fer, cuivre, plomb, terre rare, etc., qui servent à créer les câbles, serveurs, satellites, commutateurs, routeurs, data centers, que sur le plan de la consommation énergétique. Ininterrompu. Le numérique fleurit en effet sur une grande illusion, reposant sur la non-prise en compte de son impact écologique. Exemple. Pour des raisons écologiques, nous n'imprimons plus de tickets de caisse, mais nous vous l'adressons par mail. Ah, comme ils sont gentils, ces gens de la grande distribution. Ils oublient juste de mentionner que cela leur permettra de garder une trace de tout ce que vous consommez, d'étudier l'évolution de vos achats, de vendre à des annonceurs vos goûts intimes, le tout avec une empreinte écologique incommensurablement supérieure à l'impression d'un papier de 10 cm². Dans 10 ans, vous pourrez au milieu de la nuit accéder à votre liste de courses accessible H24 sur un serveur réchauffant tranquillement l'atmosphère. Le bonheur. Ici aussi, encore et toujours, ce sont des limites qu'il s'agit de fixer. Limites à la numérisation, dont l'empreinte environnementale dépasse celle du trafic aérien. Limite à l'empreinte écologique de la tech. Limite à la croissance des géants du web et à leur captation de richesses en temps record. Limite au développement des licornes, nom donné à ces start-up à la croissance ultra rapide, dont la valorisation dépasse $1 milliard.
Un café? Un écroissant tout chaud?
Vous êtes bien sur Radio B, avec Gaëlle
et Lola.
Et puis tiens, découvrons aussi la vraie bonne solution numéro 4, intitulée « Réguler la pollution ». Hashtag poubellien, la Terre, une planète chimiquement perturbée. Le tsunami de déchets sur Terre est tel qu'il est difficile de porter un regard exhaustif sur ses différents aspects. Nous pourrions par exemple parler des perturbateurs endocriniens, PE, libérés par la combustion de charbon et de pétrole, l'usure des pneus sur les routes et l'épandage irréfléchi de pesticides. Ce préambule nous permettrait d'enchaîner sur l'exposé de leurs effets tératogènes, créateurs de monstres en grec, c'est-à-dire perturbant la croissance des jeunes organismes, ce qui entraîne toute une gamme de conséquences, des populations de poissons constituées uniquement de femelles jusqu'aux enfants de plus en plus nombreux qui naissent des malformés. Allez lire les livres de l'endocrinologue française Barbara Demenex si vous souhaitez déprimer. Nous allons plutôt réduire la focale et ne parler que d'un sujet pop, le plastique, pour opérer un tour d'horizon miniature et coloré du poubellien. Négligeons d'emblée de mentionner que les plastiques sont fondamentalement constitués d'un agglomérat de saletés, dont les PE, perturbateurs endocriniens, qui confèrent notamment leur souplesse aux sacs en polymère ou fixent les encres de couleur sur les surfaces. PE qui se séparent du plastique lors de sa décomposition et vont insidieusement perturber le vivant. Ils sont partout. Nous mangeons, buvons et respirons en permanence des substances qui n'existaient pas il y a un siècle. On sait que les PAX, Plastic Associated Chemicals, produits chimiques associés au plastique, contribuent à l'obésité, au diabète et aux troubles cardiovasculaires, ainsi que très probablement aux cancers et maladies auto-immunes. Que les microparticules plastiques se fixent sur nos globules rouges et ralentissent le transport de l'oxygène dans notre sang. Ceci dit, focalisons-nous sur l'essentiel. Nous ne savons pas quelle quantité de plastoc a été déversée dans les océans à ce jour. L'estimation, jugée la plus solide, étant de 150 millions de tonnes pour la seule année 2015. Si rien n'est fait, ce chiffre devrait grimper à 600 millions de tonnes d'ici 2040. À l'horizon 2050, à ce rythme-là, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Une dose supplémentaire de chiffres ? Résumons la croissance de la production annuelle de plastique. En 1950, 2,3 millions de tonnes. En 1993, 162 millions de tonnes. En 2015, 450 millions de tonnes. Vertigineux. Le problème number one, c'est que contrairement aux apparences, le plastique est pratiquement indestructible. S'il se dégrade, c'est pour se morceler en petits morceaux, puis en micro-morceaux, puis en nano-morceaux, chaque étape offrant l'occasion d'un florilège d'effets toxiques sur le vivant. À ce stade-là, on a bien compris l'urgence d'arrêter d'en mettre partout. Même la Chine, qui s'est faite un temps le dépotoir du monde, a interdit l'importation des déchets plastiques à compter de 2018. Il faut dire que les plastiques, sagement triés en Occident, sous prétexte de recyclage, terminent pour l'essentiel en exportation vers des pays pauvres. C'est une question de main-d'œuvre, vous comprenez ? Le pétrole que l'on transforme en polymère est tellement bon marché qu'il serait bien trop coûteux de recycler. Alors on jette ou on brûle, ce qui fait le bonheur de mafias en tout genre qui se font payer pour escamoter des montagnes de plastique toxique qui forcément finissent un jour lessivées dans les océans ou carbonisées dans les airs, puis avalées ou inhalées par des êtres vivants. Des pistes pour se déplastiquer ? Petit 1, rétablir la consigne. Le meilleur des débuts. Encore mieux si on recourt aux contenants non plastiques de nos aïeux. Qui se souvient du goût du lait en bouteille de verre ? Petit 2, recycler. Dans une vraie économie circulaire qui marcherait bien dans un monde idéal, on pourrait recycler 80% des plastiques mis en circulation et inverser ce flux toxique. Problème, cela fait des décennies que l'on essaye et que ça ne marche pas. Le recyclage est pour l'instant inefficace, coûteux, quand il ne flirte pas avec l'escroquerie. Cette solution exigera que les États tapent du poing sur la table et contrôlent strictement les acteurs de ces filières. Cela pourrait déjà flécher un départ prometteur. Petit 3, interdire. De plus en plus d'États bannissent les plastiques à usage unique. C'est indispensable. Cela ne suffira pas. Et au-delà des effets d'annonce, il faudra que ces interdictions cessent de prévoir des listes interminables de dérogations, reports d'application et autres exceptions qui dissolvent trop souvent ces mesures dans le greenwashing. Petit 4, responsabiliser les consommateurs. On met beaucoup d'espoir dans l'ingénierie sociale, car il y a des experts grassement payés qui clament que ça fonctionne tellement bien que cela permettrait de venir à bout de tous les pépins. Comme si une solution culpabilisante pour les individus pouvait résoudre un colossal sac de nœuds systémique. C'est utile pour amorcer la pompe, sans plus. Voire pour se lancer des défis, ma semaine sans plastique sur Instagram. L'étape suivante est surtout d'imposer des normes aux industriels pour que le consommateur ne remplisse pas sa poubelle de plastique quand il rentre des courses. Petit 5, faire du plastique biodégradable. Là, on nage dans l'arnaque chimiquement pure. Un plastique labellisé biodégradable contient toujours du plastique, qui se dégrade plus vite et libère donc plus vite ses toxines. En mettre dans votre compost revient à vous empoisonner plus vite. Entre 1000 exemples, retenons une étude produite en Allemagne qui en arrive à la conclusion que les fertilisants issus des usines de compostage qui digèrent ce plastique biodégradable comptent pour une part conséquente des microplastiques insérés dans les chaînes alimentaires. Solution, législateurs de tous les pays, remuez-vous. Petit 6, tabler sur les bactéries mangeuses de plastique. Absolument, si vous êtes un biologiste sans conscience, ça peut rapporter gros. Le marché de la promesse fallacieuse est si prospère qu'il ne se passe pas de semaine sans publication scientifique sur ces super bactéries dévorant plastique et ou pétrole des marées noires, et ce depuis au moins 40 ans. À vrai dire, pas besoin d'OGM, c'est Dame Nature qui les a inventées. Au fond des océans, des nappes de pétrole affleurent à certains endroits et des bactéries se sont spécialisées dans la consommation des naphtes. On peut les cultiver en laboratoire. Problème, le monde extérieur n'est pas une boîte de pétri. À ce jour, ces souches d'organismes monocellulaires ne résistent pas longtemps quand on les expose à l'air ou à l'eau libre. De toute façon, une kyrielle de bactéries se multiplie déjà spontanément pour dégrader le plastique. Et dans quelques dizaines de milliers d'années, elles auront peut-être grignoté le problème. Mais dans l'immédiat, elles fournissent surtout une excuse au rabais pour ne rien faire. Petit 7, envoyer des voiliers ratisser le plastique à la dérive dans les océans ? Ah, de loin la solution la plus inepte que l'on puisse imaginer, vu les échelles et la diffusion impliquées. Petit 8, ne produire du plastique que pour les seuls usages où il est indispensable. Par exemple la médecine, les technologies de pointe, etc. Banco ! C'est le seul moyen vraiment efficace. Mais il y a des titans du plasturgique qui vont tout faire pour ne pas tuer la grosse poule aux os d'or. Eh bien voilà, je vous invite à courir en librairie, vous procurer Vortex de Laurent Testo et Nathanaël Wallenhorst, ou à l'emprunter à la médiathèque Vaillant. Passez de bonnes fêtes, solidaires et durables, et je voudrais, avant de vous laisser, vous dire un petit message personnel. Enfin, personnel. Voilà, je voulais vous dire arrêtons d'acheter des trucs de Noël. Vous savez, tous ces machins qui débordent de ces magasins de merdouille en périphérie de nos villes. Arrêtons d'acheter des Pères Noël en plastique, des lutins, des guirlandes lumineuses ou non, des boules à neige, des nappes, des serviettes en papier, des bougies, des boîtes à musique, des couronnes, stop. Oui, j'ai les boules et pas de Noël. Tout cela finira en déchets. Tout ça, ce sont des déchets qui viendront grossir les montagnes de poubelles en Afrique. Et tout ça, finira dans les océans. Alors, bonne fête à tous, éclatez-vous, profitez de la vie, sans toutes ces merdouilles polluantes et inutiles. Sans babiole, la fête est plus folle. À très bientôt sur Radio B, nous écoutons Blackfield, Cloudy Now.
In a violent place, we can call our country. There's a mixed up man, and I guess that's me. The sun's in the sky, but the storm never seems to end. It's a place of sorrow, but we call it a home. And the darkest thoughts, yeah, I guess they're my own. There's wealth in the bank, but there's nothing to show inside. It's cloudy now. It's cloudy now. It's cloudy now. It's getting cloudy now. In a special place that I call my life. The father was cruel and he lost his wife. But I don't see either, 'cause I live across the street. It's a beautiful thing when it starts to rain. A man who drinks just to drown the pain. And I can't stop from dreaming there's something else. It's cloudy now. It's cloudy now. It's cloudy now. It's getting cloudy now. It's cloudy now.
I can stop dreaming something.
It's cloudy now. It's cloudy now.
I can stop.
It's getting cloudy now.